C'est le docteur Laurence Pesquet qui va nous parler de sortir de la dépression.
Bonsoir. Donc j'ai choisi de rester ce soir sur le thème de la dépression, sortir de la dépression. Comment la quitter ? Donc je vais dans un premier temps vous redéfinir brièvement la définition de la dépression et ses grands symptômes caractéristiques pour aborder dans une deuxième partie plus précisément le sens inconscient de la dépression, donc sur le plan du psychisme, et revenir dans une troisième partie, d'une façon donc plus directe, sur l'identité proprement dite. Donc tout d'abord une définition, la dépression s'inscrit comme un trouble de l'humeur, l'humeur étant notre disposition affective fondamentale qui régit nos états d'âme et qui leur donne une tonalité agréable ou désagréable et qui nous permet également de nous adapter, de nous faire face à notre environnement. Il faut distinguer une humeur triste, qui est une humeur passagère, qui est réactive à un événement douloureux, à une difficulté dans la vie, qui va être de courte durée, et une tristesse qui s'installe dans le temps et qui va comporter plusieurs des signes cliniques que je vais vous décrire brièvement par la suite. Donc on distingue trois grands symptômes dans la dépression qui sont sous la forme de souffrance morale, de ralentissement psychomoteur et de retentissement physique. On entend par souffrance morale une tristesse profonde que présente l'individu qui va s'accompagner de pessimisme, d'idées noires, parfois de crises de larmes. Un sentiment d'autodépréciation de lui-même présenté par le sujet, c'est-à-dire un sentiment d'impuissance, de ne pas être capable de pouvoir faire face à la vie. Il se sent déçu, il se sent abandonné, seul dans sa problématique, avec un mal-être important. Dans le même temps, il développe un sentiment de culpabilité, une culpabilité envers lui et envers l'entourage. Il est responsable de ce qui lui arrive, de ce qui arrive aux autres, de tout ce qui arrive en fait. L'anticipation de l'avenir est négative. Le présent est échec, l'avenir ne peut être également qu'échec, que mauvais, noir, triste. S'ajoute également dans ce tableau de souffrance morale une incapacité à éprouver du plaisir. Donc il n'y a plus l'envie de partager des moments avec les autres, il y a de l'ennui, du dégoût, un manque d'envie parfois de s'habiller, de se maquiller pour des femmes, de sortir, de prendre plaisir à des conversations. Est souvent présente avec ce tableau de souffrance morale l'angoisse. L'angoisse que certains d'entre vous connaissent peut-être sous forme d'une boule dans la gorge, d'une oppression dans la poitrine, d'une difficulté à respirer, de tremblements, de vertiges, de cette douleur intérieure à soi qu'on arrive même en généralement du mal, qu'on a du mal à définir, qu'on a du mal à expliquer, mais qui est là, qui lâche pas et qui est absolument épouvantable. Ça, c'est le tableau donc souffrance morale. Accompagne ce tableau le ralentissement psychomoteur, voire l'inhibition psychomotrice. C'est un ralentissement qui va toucher d'abord les fonctions supérieures, les fonctions dites intellectuelles, avec des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, une difficulté à faire le travail qui habituellement ne pose pas de problème, un ralentissement général. Le sujet se sent débordé, n'arrive pas à faire face. Dans le même temps, il présente également un ralentissement des fonctions motrices, c'est-à-dire qu'en fait, sa vie se ralentit, ses déplacements sont plus lents. Le matin, il met plus de temps à se préparer. Donc automatiquement, dans la journée, il ne peut faire que moins de choses par rapport à son rythme habituel et en même temps, il ne peut pas s'accélérer. Ralentissement des fonctions supérieures, ralentissement des fonctions motrices, ralentissement des fonctions affectives. On observe une chute donc de la libido dans le domaine affectif. Le sujet ne s'aime plus, il ne peut plus aimer les autres. Il n'a plus d'affectif à donner, et il ne peut plus partager puisque lui-même se sent déjà non aimé. Il devient indifférent aux proches, aux événements. Le troisième volet, c'est le retentissement physique. Donc pareil, un ralentissement qui touche sur les grandes fonctions essentielles, de l'individu. La fonction donc alimentaire, amaigrissement, inappétence, voire anorexie. tout ce qui est trouble du sommeil, de l'ordre de l'insomnie ou de l'hypersomnie. On peut avoir l'inverse avec un sujet qui n'arrive plus du tout à quitter la couette, qui n'arrive plus à se lever le matin, qui n'entend pas le réveil. Et des troubles de la fonction sexuelle, avec là une anesthésie complète dans ce domaine, qui peut aller donc jusqu'à l'impuissance pour les hommes, voire la frigidité pour les femmes. Retentissement physique, avec des plaintes somatiques diverses, type colite, migraine, constipation, nausée, vertige, beaucoup de douleurs du dos, avec des bilans qui vont être normaux, mais un dos qui fait mal, qui est bloqué, qui est raide. Donc, dans un premier temps, les plaintes somatiques, d'ailleurs, sont parfois au premier plan, c'est-à-dire que la dépression est dite masquée. La souffrance morale plus directe va s'exprimer dans un second temps. Dans une première partie, le sujet va essayer de lutter pour faire face à cette dépression qui arrive par une hyperactivité, avec un renfort de médicaments, de stimulants, parfois même de nourriture. Il va y avoir cette première phase, je dirais, accélérée, mais sur les nerfs, et après il va y avoir cette deuxième phase anéantie, et c'est là qu'on est dans le ralentissement général, et à ce moment-là, la dépression devient, je dirais, plus évidente. Face à une dépression, il faut toujours quand même, bien sûr, d'un point de vue médical, il faudra toujours éliminer une cause organique, une cause hormonale, un dérèglement, comme les dérèglements thyroïdiens, comme des dérèglements hormonaux, de façon à ne pas se tromper, je dirais, de diagnostic et ne pas partir uniquement sur le psychisme. Sinon, donc, hormis ces cas-là, moi je vais traiter de la dépression, je dirais, classique, exogène, qui est réactive à un événement extérieur, qui peut être soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine affectif. Je mets à part, et je n'en traiterai pas aujourd'hui, ce qu'on appelle la mélancolie, qui est une forme de dépression endogène très très profonde, qui ne répond pas à un événement extérieur, qui est tout à fait propre à l'individu et à son histoire, et qui est quelque chose qui est un tableau différent et complètement à part. Donc si l'on reprend la dépression classique, celle que vous rencontrez parfois autour de vous, ou que vous avez peut-être eu à traverser une fois dans votre vie, la dépression renvoie à une notion de mise en échec, tant donc sur le plan professionnel que sur le plan affectif. En sachant que sur le plan affectif, le sujet est par là, sur ce terrain-là, beaucoup plus démuni que sur le plan professionnel, de par son histoire et de par sa petite enfance, et beaucoup plus vulnérable. Lorsque le sujet donc va être amené à subir une perte ou une séparation, il va avoir l'impression de perdre une partie vitale de lui-même, son essence, son énergie. Cet autre qui m'abandonne, soit parce qu'il me quitte pour un autre, soit parce qu'il part pour une raison de deuil, part en général dans le fantasme avec une partie de moi-même, avec ce qui fait mon essence, ce qui fait mon plaisir, ce qui fait mon tout. C'est pour ça que le sujet se sent abandonné, perdu et se positionne sur la perte. Au niveau du psychisme, la dépression renvoie au stade du moi abandonnique, du moi perdu. C'est un stade qui nous renvoie à la petite enfance vers 7-8 mois. En fait, la souffrance actuelle qui est réactionnelle à l'événement est réactive et est majorée par une souffrance ancienne qui correspond à ce stade et à la façon dont l'enfant a vécu et a traversé ce stade. Ce qui fait qu'en fait, il y a une double composante. Il y a le problème actuel et le fait que la tristesse profonde va durer, va s'accompagner de symptômes, c'est parce qu'elle réactive cette souffrance qui est au plus profond de nous-mêmes et sur lequel il y a eu un point de fixation. C'est ce qu'on appelle le stade du moi perdu qui s'origine à ce stade du 7e, 8e mois. Donc si on reprend le développement de l'enfant dans sa petite enfance, dans ce qu'on appelle la psychogénèse. Lorsque l'enfant naît, il est dans le ventre d'abord de la mère, il fantasme au départ être un tout. Il ne fait pas de séparation entre la mère et lui. Cette mère qui le contient est en fait son enveloppe. Donc lorsqu'il va accoucher, lorsqu'il va venir au monde et qu'il va naître, il va avoir l'impression, fantasmatiquement bien évidemment, de perdre cette enveloppe. Donc c'est déjà une première expérience de perte qui s'engramme dans son esprit, c'est ce qu'on appelle le traumatisme de la naissance. Il retrouve ensuite le plaisir avec cette mère qui va lui donner le sein, qui va donner le biberon, qui va le nourrir, et à ce moment-là, il n'est plus que plaisir. Il poursuit son évolution, donc le stade plaisir sur les premiers, deuxièmes mois, il poursuit son évolution et il découvre brusquement que lorsque le biberon est digéré, il a le ventre vide. À ce moment-là, il découvre le sentiment de vide, il pleure, il crie de façon à ce qu'on lui apporte à nouveau un aliment. Et de façon à ce qu'il retrouve cet état de plaisir qu'il a perdu. Donc il y a cette notion de vide qui commence à s'engrammer dans son esprit. Il poursuit son évolution, bon, avec un autre stade qui s'appelle le contrôle des sphincters, où il va essayer de contrôler sa mère, pour arriver au 7e, 8e mois, où là, il réalise en fait que de temps en temps, elle sort de la pièce. Il commence à comprendre qu'elle sort de la pièce, qui reste de l'autre côté de cette porte, et à ce moment-là, il fantasme qu'elle part avec son essence à lui, son contenu, et il se vit comme vide, de la même façon qu'il avait l'expérience de ce vide lorsque le biberon est digéré. À ce moment-là, pour lui, c'est une souffrance, puisqu'il perd une partie de lui-même avec cette mère qui change simplement de pièce. C'est une étape qui est normative, qui est structurante, qui fait partie d'une évolution normale pour nous tous, et qui va permettre petit à petit au petit homme de progressivement commencer à mettre en place une séparation avec la mère, une identification personnelle, mettre en place la distance avec la mère qui se fera à des stades un peu plus ultérieurs. Mais c'est son cheminement qui est, je dirais, normal et qui est nécessaire et structurant. Il peut y avoir un point de fixation à ce stade, 7e, 8e mois, si la famille traverse à ce moment-là des épreuves elle-même. Et c'est parce qu'il y a une difficulté ou une incapacité à gérer au niveau de la fratrie les problèmes extérieurs qui peuvent être une séparation, qui peuvent être un deuil proche ou des problèmes d'argent importants, des problèmes de travail. Il va y avoir à ce moment-là une problématique extérieure au nourrisson mais qui touche ses parents, qui fait que ce 7e, 8e mois ne va pas se dérouler d'une façon aussi simple d'une façon régulière. Et il va y avoir un ancrage du nourrisson avec un souvenir mnésique de ce stade très important. Et c'est ce souvenir de la perte engrammée à ce 7e, 8e mois, plus ou moins développé chez nous tous, qui nous aidera, ou je dirais, nous posera des difficultés par la suite dans la vie lorsque nous aurons à affronter ou une perte ou une séparation. Donc ça, c'est le premier sens au niveau du psyché de la dépression. C'est ce qui explique aussi que quelqu'un qui perd un membre de sa famille, même si c'est un parent qui est en âge de partir, qui pourtant a une famille avec des enfants, va arriver à ne plus voir l'entourage qu'il a autour de lui pour ne rester que sur ce sentiment de perte alors qu'il a une famille. Si l'on parle par exemple d'un homme, il a une femme et des enfants qui sont à la maison, qui sont avec lui, qui l'entourent. Il arrive à se laisser envahir par cette perte et à ne plus réaliser ce qu'il a. Et ça me renvoie à une patiente qui a perdu son mari dernièrement sur une longue maladie, donc un décès attendu. Et lorsqu'il y a eu réalité du décès après un mois et demi de réanimation, donc déjà de séparation au niveau de la maison, la première phase qu'elle a eue, ça a été de me dire « Mais pourquoi m'a-t-il abandonnée ?» On était là effectivement sur cette difficulté, sur ce moi abandonnique, ce moi perdu. Le deuxième problème au niveau de la dépression, c'est que ça renvoie, ça réveille chez le sujet une blessure narcissique. C'est-à-dire que ça le met en échec par rapport à sa propre image de lui-même. Donc le sujet va être déçu de ne pas être à la hauteur, de n'avoir pas su éviter, surmonter, régler le problème. En fait, cette image de lui-même qu'on appelle idéal de soi, c'est-à-dire l'image de ce qu'il aimerait être, et surtout le schéma qui repose sur ce que je crois que mes parents souhaiteraient ou auraient souhaité que je sois, donc deux niveaux, mon image personnelle plus mon imaginaire sur ce que mes parents auraient aimé que je sois, donne en général pour chacun de nous ce qu'on appelle une image idéale de soi, qui est une image bien évidemment brillante, forte, de réussite, sans manque, sans frustration, quelqu'un capable de surmonter les épreuves, de réussir quand il le souhaite là où il veut, une image pleine de projection et d'identification par rapport à son histoire et par rapport à sa famille. Et cette dépression, ben c'est une mise en échec de cet idéal de soi. Et c'est une difficulté pour le sujet d'accepter ses limites et d'accepter cette réalité. C'est difficile pour lui, c'est difficile vis-à-vis de sa famille. Et sur ce terrain se rajoutent parfois les commentaires de l'entourage qui peuvent, soit je dirais, être de bon aloi, soit en rajouter une couche à la problématique de l'individu. On retrouve aussi sur cette perte de l'idéal de soi, lorsqu'il y a une mise en échec sur un problème professionnel affectif avec une trahison, c'est-à-dire je perds ma place pour un ou une qui va me la prendre, que ce soit dans le domaine affectif, si le mari ou la femme part avec un autre ou une autre, ou sur le plan professionnel, se pose aussi une image du rival qui est toujours plus brillant que soi, pour lui, dans la réussite, et qui renvoie encore plus l'individu à cet échec, à cette image négative de lui. Donc c'est une difficulté à accepter ses limites, à accepter de perdre son idéal de soi, en sachant que l'être surdoué n'existe pas et que chacun fait en fonction de ses possibilités. À ces deux éléments s'ajoute toujours le fantasme de culpabilité qui renvoie à la petite enfance. Je vous en ai parlé dans la présentation de la dépression, en sachant que le sujet se vit toujours responsable de ce qui lui arrive, de ce qui arrive à son entourage, c'est de sa faute. Je n'ai pas su le sauver, je n'ai pas su le ou la retenir, je n'ai pas pu l'empêcher de mourir. Ce sont des phrases qu'on entend souvent où des gens se reprochent de n'avoir pas vu à temps des signes annonciateurs d'une maladie, de ne pas avoir su détecter, de ne pas avoir été assez fort pour obliger la personne à consulter par exemple un médecin en espérant que cela aurait pu éviter la maladie qui arrive de toute façon. Donc ça, ce sont les trois éléments, dont les deux plus importants au niveau du sens de la dépression sur le plan du psyché. Maintenant, face à tous ces éléments, je dirais, et en situation, comment sortir de la dépression, comment arriver à se positionner et à sortir de cette souffrance morale et de cette tristesse? C'est tout un changement de pensée qu'il va falloir s'obliger à faire, en sachant que le sujet est à ce moment-là fatigué, dénarcissisé, avec une mauvaise image de lui-même, sans énergie, vidé. Donc il va falloir dans un premier temps qu'il arrive à se recentrer lui-même pour réorienter la libido sur soi, récupérer de l'énergie dans un processus de réflexion, dans un processus d'introspection. Il va lui falloir accepter en fait de quitter la perte et cesser de lister ce qu'il a perdu ou ce qu'il est en train de perdre et commencer à regarder du côté du positif. Regarder du côté du positif, c'est lister ses biens, ses acquis, ses compétences. Alors il va falloir trouver pour chacun ce qui lui convient. Ça peut être faire remarquer à la personne qu'elle a sa maison, que sa maison est payée, s'il y a une angoisse de problèmes financiers parce qu'il y a la perte, par exemple, du mari. C'est lui faire remarquer qu'elle a une famille autour d'elle, qu'elle a su créer, avec des enfants qui l'attendent, qui le regardent, qui le ou la regardent, qui comptent sur lui, sur elle. On peut à ce moment-là regarder sur le professionnel, lui faire remarquer que le professionnel, si c'est l'affectif qui est en échec, le professionnel, lui, marche bien, qu'il y a une reconnaissance à ce niveau-là. Rechercher au niveau du social, si la personne a des activités, lui faire remarquer qu'il a des amis, qu'il a un entourage, même extérieur, qui lui renvoie une image positive de lui. Bref, c'est ce que j'ai. C'est cette liste de ce que j'ai qui permet de se renarcissiser et qui va, tout petit à petit, à son rythme à lui, lentement bien évidemment, lui permettre de grignoter un petit peu en narcissisme et de commencer un petit peu à être moins fatigué, à pouvoir un petit peu bouger, réfléchir un peu différemment. C'est cette avancée qui va lui permettre de ne plus subir la dépression comme une fatalité inexorable, ne plus la subir, mais la voir comme une chance de plus qui nous est donnée dans la vie pour mettre en place un changement. J'entends par là un changement d'état, puisque toute notre vie est faite de toute façon de changement d'état depuis la naissance, je dirais, tant que dure la vie, jusqu'à la fin, bien évidemment. Cela à partir du nourrisson qui vient au monde, qui perd donc son fantasmatiquement son enveloppe, qui va grandir, cet adolescent qui va progressivement changer de corps, accepter ses modifications corporelles, accepter de résoudre son Œdipe, c'est-à-dire accepter de quitter son amour pour son premier homme, pour une femme, c'est-à-dire le père, son premier amour pour un homme, c'est la mère, et accepter de se tourner donc vers un autre homme ou une autre femme pour envisager de fonder un foyer. Ce sont des étapes, si vous réfléchissez bien, qui sont toujours de toute façon difficiles et qui entraînent des crises, des souffrances, l'exemple même étant la difficulté de la crise adolescente. C'est l'exemple aussi de d'une femme qui est enceinte, qui est heureuse d'être enceinte et qui éprouve de la difficulté à l'annonce imminente de l'accouchement et dans les mois qui suivent, parce qu'elle est sur la séparation avec ce bébé, d'où les dépressions que l'on peut avoir avant ou après l'accouchement. Donc ce qu'on peut voir, c'est que tout changement d'état ne se fait pas forcément dans la joie et dans la gaieté. Il nécessite toujours de faire le deuil de son ancien état, de son ancienne situation, pour accepter la nouvelle. Donc la dépression, elle est à entendre aussi de cette façon-là. C'est renoncer dans le même temps à son idéal de soi, donc ce qui va aussi avec le changement, accepter ses limites, laisser de côté ses rêves de grandeur et de réussite. C'est se placer dans un principe de réalité en termes de limites, de temporalité. Le système, ça consiste aussi quand les pensées négatives arrivent, parce que bon, je vous dis tout ça parce qu'il faut le faire progressivement, il faut s'obliger à le faire, c'est pas si facile que ça, c'est un travail de tous les jours au quotidien, c'est lutter contre soi, contre son ça, j'irais, paresseux, qui cherche à vous ramener en arrière, qui cherche à vous ramener dans le passé. C'est lorsque les pensées tristes arrivent, pour les chasser, s'obliger à faire quelque chose, ça peut être pour les femmes faire le ménage, nettoyer les vitres, pour un homme sortir, se remettre au travail, faire du bricolage, c'est s'obliger à ne pas se laisser envahir l'esprit par les pensées négatives pour progressivement toujours se remettre sur du positif. C'est surtout lâcher le pourquoi. Le pourquoi, il est accusateur, il est culpabilisant. Lorsque vous vous dites pourquoi, c'est toujours pourquoi n'ai-je pas su le retenir ? Pourquoi je n'ai pas su le sauver ? Pourquoi n'ai-je pas me suis pas positionné autrement ? La réponse au pourquoi, elle est toujours incomplète, elle est toujours insatisfaisante et de toute façon, elle bloque. Elle met en situation de blocage sur un présent déjà, mais surtout sur un passé. Lâcher le pourquoi et se positionner sur le comment. C'est comment sortir de la dépression. Le comment appelle l'interrogation, c'est comment faire pour. Comment faire pour traverser l'épreuve ? Comment faire pour trouver un nouveau travail, récupérer de l'argent, mettre en place une nouvelle vie ? À ce moment-là, il y a un changement de positionnement au niveau du psychisme qui rentre dans un faire et dans un processus actif. Et donc, à ce moment-là, on sort de la passivité. Petit à petit, on commence à réfléchir différemment et à entrevoir l'issue du tunnel. Un cheminement toujours à son rythme lent et qui nécessite un auto-questionnement. Le comment, il amène le professionnel, c'est-à-dire à travers le professionnel, comment se positionner pour, par exemple, ne plus se faire piquer sa place lorsqu'il s'agit d'une rivalité professionnelle. Comment éventuellement envisager un nouveau travail ou redémarrer sur un poste de travail si on ne travaillait plus. ou pour une femme qui est à la maison ou un homme qui ne travaille pas, comment mettre en place un fer avec un axe ouvert vers l'extérieur. C'est un axe socio-humanisant qui va permettre d'aller chercher ce regard de l'extérieur qui va vous renvoyer une image plus valorisante de soi et progressivement, pareil, quitter sa situation actuelle. Auto-questionnement, apaisement, allez voir aussi le manque de l'autre. À chaque fois qu'il y a trahison, rivalité, l'individu a toujours tendance à penser que l'autre est meilleur, parce que l'autre lui a piqué sa place, parce que forcément il est le plus fort. Si l'on a des manques, l'autre il en a aussi. Il faut s'obliger également à lister les manques de l'autre. Lorsqu'on réfléchit bien, quel que soit le poste, quel que soit le problème professionnel ou affectif, on arrive toujours à repérer au bout d'un moment les failles de cet autre. Repérer ses failles, c'est le désidéaliser. Le désidéaliser, c'est déjà le ramener à une dimension plus humaine et c'est soi-même se renarcissiser et sortir de ce sentiment d'échec, ce complexe d'infériorité qui s'est mis en place. Et se permettre soi-même de récupérer une énergie qui va permettre de réagir, de se réactiver. Sur le plan affectif, lorsqu'il y a une séparation avec une trahison affective, identifier le manque du rival ou de la rivale, c'est la désidéaliser, mais c'est désidéaliser aussi de fait cet autre, le partenaire ou la partenaire qu'on a perdu. C'est atténuer sa douleur. Et pareil, récupérer toujours de l'énergie pour soi. C'est là qu'intervient la place du pardon, puisque le pardon à l'autre n'est pas fait pour nier la trahison, pour le déculpabiliser, c'est accepter de tourner la page pour se centrer sur soi et s'occuper de soi-même et ne plus rester fixé sur cette histoire qui est une histoire du passé. Donc ce sont des éléments de travail personnel qu'il va falloir réussir à mettre en place petit à petit. Ces éléments, ils sont pas toujours faciles à mettre. Ils peuvent aussi s'intégrer dans une succession de deuil ou de séparation, des sections de dépression dans la vie de l'individu. Donc chaque nouvelle épreuve, si on n'a pas eu un travail sur soi, est quand même difficile à surmonter, à dépasser. Donc c'est vrai que ce travail, on peut le faire seul, si on en est la capacité. On peut même envisager de s'aider d'antidépresseurs. Donc c'est ce qui nous arrive de donner pour des dépressions, parce que la personne, elle est tellement inhibée, elle est tellement fatiguée qu'elle n'a plus d'énergie justement pour réfléchir, ne serait-ce que réfléchir sur elle-même. Le fait de donner des médicaments, ce qu'on appelle les antidépresseurs, ça permet de re-énergiser cette personne et de lui permettre simplement de réfléchir. Si de fait, il est capable à ce moment-là de mettre en place une dynamique personnelle. C'est une réussite puisqu'on va pouvoir sortir du médicament. À partir du moment où on s'installe dans un traitement de longue durée et qu'il n'y a pas de changement dans la vie du patient, c'est pas bon parce qu'il faut à ce moment-là envisager de l'aider sur le plan psychique, c'est-à-dire que seul, il n'est pas à même de traverser cette épreuve, ce qui est tout à fait louable. Et à ce moment-là, il faut lui proposer de faire ce travail de cheminement avec l'aide d'un spécialiste. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que l'on va pouvoir intervenir avec des spécialistes, soit en psychothérapie, bon, ça dépend un peu du profil des individus, soit sur un travail plus analytique, ce qui dépend de l'histoire de sujet, de sa motivation, de son intérêt déjà dans ce domaine. C'est toute l'importance de ne pas s'installer dans ce qu'on appelle les pilules du bonheur, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, qui permettent de camoufler, mais à moitié simplement, la dépression, pour permettre à l'individu de rester en l'état avec son mal-être, mais sans excès, ce qui lui permet donc au quotidien de rester dans cette situation. Donc, sortir de la dépression, c'est accepter cette dépression comme une chance de plus de changer d'état, de réagir, de réfléchir sur soi pour mettre en place un comment. C'est surtout ça, je dirais, l'important, c'est lâcher le pourquoi, ce qui est le réflexe habituel et le réflexe, je pense, qu'on a tous eu dans notre vie, et s'obliger. Alors ça, c'est, quand je dis s'obliger, c'est se le répéter, c'est se faire violence soi-même au niveau de la, de la tête lorsque l'idée arrive, négative bien évidemment, lorsque l'envie de pleurer arrive, pour se mettre sur un fer et automatiquement devenir actif. Voilà, donc ça je vous ai donné quelques éléments sur une, je dirais, une attitude face à la dépression. Donc j'ai essayé de vous présenter donc le côté, j'irais, médical classique, le côté analytique et j'irais un positionnement qui permet d'être évolutif. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous souhaitez des éclaircissements à ce sujet?
Oui, je voudrais vous poser une question au sujet de la dépression anaclitique de l'enfant. Quel devenir pour cet enfant qui a vécu ce type de dépression, s'il vous plaît?
Ça, ce sont des. Vous voulez parler des dépressions de séparation de l'enfant,
oui,
par rapport
ça,
à la mère?
L'enfant hospitalisé.
L'enfant hospitalisé, oui. C'est ce qu'on appelle l'hospitalisme. C'est une trace qui reste en place dans la mémoire de l'enfant. De la même façon que je disais qu'il peut y avoir un point de fixation vers le 7e, 8e mois sur la perte, l'hospitalisme, de toute façon, reste une difficulté qui va rester engrammée dans le psychisme de l'enfant, avec une incidence donc plus ou moins importante selon le stade à laquelle l'hospitalisation et la séparation à ce moment-là se met en place. Donc est-ce que c'est avant ce stade, est-ce que c'est après? Parce qu'il y a quand même plusieurs âges critiques. Est-ce que c'est avant 3 ans, est-ce que c'est après 3 ans? Et je dirais que c'est en grandissant que l'on va voir les conséquences et que l'on pourra apprécier la réactivité de l'enfant lorsqu'il y a déjà une annonce de deuil dans la famille ou une séparation avec la mère. C'est du cas par cas, puisque en fait, ça reste une souffrance de plus que l'enfant aura à dépasser et à faire avec. Mais après, il y a l'histoire de l'enfant, il y a l'histoire de sa famille, et donc il y a sa réactivité.
Je voudrais savoir, s'il vous plaît, si vous pouvez nous donner plus de précisions concernant comment avoir le déclic, parce que parfois on sait qu'on n'est pas bien, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et qu'on a les clés, mais que ça reste dans la tête. Comment sortir de l'inactif à actif?
Je ne sais pas
si c'est clair, vous comprenez.
C'est comment s'empêcher au niveau de la tête de rester sur
l'inactif. Oui, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui vont... En fait, je parle de moi, des choses qui tournent en rond par rapport au projet professionnel que je n'arrive pas, parce que je mets le pour et le contre. Et je le sais mentalement, mais comment arriver à mobiliser ses énergies, à se mettre en place tout un projet
C'est faire la liste déjà de son évolution professionnelle, de ce qu'on a fait depuis le début au niveau professionnel. C'est-à-dire qu'au lieu de voir la situation actuelle qui est bloquée seulement, voir déjà tout ce que vous avez réussi à traverser depuis que vous travaillez. C'est-à-dire vos compétences, les endroits où vous avez travaillé, l'image qu'on vous a renvoyée de vous-même. Se mettre sur le positif, c'est regarder ce qu'on a réussi déjà depuis un certain temps. Donc voir ses points forts. Et essayer ensuite, par rapport à ces points forts, de comprendre la situation donc, qui bloque à l'heure actuelle pour envisager une sortie, un dénouement. Donc, soit une nouvelle orientation, soit une formation, d'accord, soit un travail sur soi si vraiment il y a des échecs répétés avec des difficultés sur des examens, sur des concours, je ne sais pas, d'une façon répétée. Mais c'est déjà lister tout ce que vous avez réussi jusqu'à présent, parce que la situation de blocage, elle est maintenant, mais tout ce qui était avant, c'était une évolution qui était correcte, qui était forcément correcte à certains moments. Elle n'est pas toujours négative, c'est pas possible.
Bonjour, je voudrais savoir si vous envisagez les thérapeutiques pour les dépressions endogènes et exogènes de la même façon, c'est-à-dire sur le plan psychiatrique, médical, médicaments, et sur le plan psychologique, psychanalytique.
Non, c'est pas les mêmes.
Elles sont liées, parfois il y a les deux ensemble. Donc, l'une des...
C'est pour ça que je vous ai dit que j'allais traiter. Bon, ce qu'on appelle donc les dépressions exogènes, c'est les dépressions réactionnelles à un événement extérieur. Et que la mélancolie, je la laissais de côté, c'est ce qu'on appelle la dépression endogène, qui est un trouble de l'humeur profond de l'individu, mais qui est reconnu comme une maladie à part entière d'un point de vue médical, qui est une maladie qui est prise en charge, je dirais, à 100%. Donc c'est complètement différent de la dépression qui est un état de tristesse dit quand même transitoire et passager qui doit passer, et la mélancolie qui nécessite un accompagnement constant et qui est beaucoup plus important, qui nécessite à la fois un traitement médicamenteux, là souvent, je dirais, permanent, avec un soutien psychologique. Donc c'est pas du tout la même importance de dépression.
Je pose la question parce qu'en fait il y en a une qui déclenche. Enfin, parce que vous avez dit c'est l'une qui déclenche l'autre, enfin, qui révèle l'autre, l'exogène qui révélerait.
Non, non. Enfin, je pense pas. Sinon je me suis mal exprimée à avoir dit cela. Ce que j'expliquais c'est qu'il y avait donc deux types de dépression. La dépression endogène qui est la mélancolie que je traiterai pas ce soir parce que c'est une maladie à part entière, c'est pas ce qu'on appelle la dépression réactionnelle à des événements, ce qu'on appelle la dépression exogène. Exogène parce qu'il y a un facteur extérieur. Donc c'est complètement différent et ça se prend en charge en psychothérapie avec des psychiatres, peut-être effectivement d'une façon analytique, mais c'est pas, je veux dire, du tout le même travail. Et là, l'individu a besoin d'être aidé, tout le temps.
Bonsoir, je voulais savoir si les traitements de thérapie en groupe, comment vous, sur quel genre de dépression ça peut aider, les traitements en groupe de brève, de 3 à 6 mois par exemple.
Alors, moi je dirais d'un point de vue médical au niveau de mon expérience professionnelle, je ne travaille pas effectivement avec des thérapies de groupe. Je travaille avec des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes en fonction du choix du patient ou des psychothérapies comportementales. Donc, psychothérapie de groupe, je n'ai pas eu de demande au niveau des patients, parce qu'on peut toujours avoir des patients qui arrivent et qui, des fois, souhaitent un type de psychothérapie. Certains sont venus me voir pour une psychothérapie comportementale. Psychothérapie de groupe, je reconnais que je n'ai pas eu cette demande. J'ai souvent rencontré des gens qui l'avaient fait, mais j'irais sans avis d'un médecin, pas de même, et qui est de toute façon quelqu'un qui fait une démarche en psychothérapie individuelle ou en psychothérapie de groupe a toujours quelque chose à en retirer, et de toute façon c'est toujours une étape et une évolution dans sa vie. Souvent les gens que j'ai rencontrés, moi, qui faisaient des psychothérapies de groupe, l'avaient fait un certain temps de leur vie et ensuite étaient passés à autre chose. Donc ça faisait partie d'une évolution de l'individu pour progressivement également évoluer sur le positif.
Bonjour, je voulais vous demander, vous avez dit que les premiers temps de la dépression pouvaient être une lutte acharnée où la personne est sur les nerfs facilement et ensuite c'est complètement l'inverse. Par rapport à une personne que je connais, depuis 15 ans, et même c'était un peu son trait de caractère, après un traumatisme, un abandon, la personne reste depuis 15 ans en lutte. Et est-ce qu'après, cette personne n'a jamais éprouvé le besoin, ou en tout cas est toujours restée dans la résistance de se faire aider par un professionnel, après 15 ans, maintenant la personne a plus de 60 ans, elle va facilement dire... la salle à manger, elle est en désordre, j'arrive tellement de mal à faire alors qu'elle est nickel. Donc j'essaye, enfin, c'est un petit peu compliqué ce que je dis. Est-ce que ça devient un comportement comme ça latent ou c'est toujours une dépression qui bouge pas, qui est bloquée là et qui, chaque petite chose, surtout sur le ménage par exemple, parce que c'est une femme, va prendre des proportions énormes?
Ce que vous me dites, moi, ça me renvoie plutôt à des phobies. Hein. C'est surtout les gens qui sont obsessionnels, une névrose obsessionnelle du rangement.
Non, elle n'est pas obsessionnelle, cette personne, par rapport au rangement. C'est une maison normale.
Hein. Pour qu'il y ait dépression, il faut qu'il y ait quand même une tristesse morale. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui est difficile, qui est exigeant, qui n'est pas facile à vivre, mais qui n'est pas forcément en souffrance morale lui-même.
Elle l'est.
C'est ou qui arrive à ce moment-là à se dégager en basculant sur l'entourage, le mauvais, et arriver comme ça à évacuer le trop-plein qu'elle a en permanence pour se stabiliser.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Bonsoir.
Bonsoir.
Par rapport à ce que vous avez expliqué sur l'évolution du bébé, enfin de l'humain, quand il y a abandon. Quand il y a abandon de la mère, je dirais, dès la naissance, enfin, une mère abandonnante, disons, c'est-à-dire pas une mère qui part, mais une mère qui laisse son enfant, qui le reprend, qui le laisse. À ce moment-là, il n'y a pas ce sentiment de vide spécialement à cette période de 7-8 mois. Ça se construit autrement, sûrement, l'évolution du bébé.
vous avez d'autres stades qui sautent, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que ça se rajoute. C'est-à-dire que si vous avez des séparations sur les premiers et le deuxième mois, ce stade de plaisir où le bébé retrouve sa mère et fusionne avec elle et tout plaisir, où elle est bonne, où c'est la plénitude, il va aussi peut-être la zapper. Selon quand vous avez des récupérations et puis séparations, vous avez plusieurs stades qui sont touchés. Donc à ce moment-là, de toute façon, ce sont plusieurs problématiques qui se mettent en place.
Et ça ne fait qu'augmenter la sensation du vide.
Ça augmente l'association, oui. Et ça peut aussi, je dirais, ne pas permettre au nourrisson d'avoir engrammé la sensation de plaisir. Ce qui est important aussi, c'est parce qu'on a tous plus ou moins cette image de plaisir qui est en nous et qui fait aussi qu'on arrive de temps en temps à la retrouver et pareil, à se regonfler.
Et ça peut donner un fond dépressif.
Alors ce sont des éléments qui vont intervenir en fonction après de la réaction de l'individu. À deux histoires différentes, même sur un nourrisson qui a été abandonné par une mère en bas âge ou repris avec une histoire familiale très mouvementée, si vous prenez les deux mêmes histoires, vous n'aurez pas forcément deux dépressifs à la fin parce qu'il y a le caractère de l'individu. C'est-à-dire qu'il y a sa réactivité par rapport à ce qu'il a vécu. Après, hein, donc qui fait la différence à l'âge adulte. Alors, il y aura peut-être d'autres problèmes, des angoisses, des phobies, mais il n'y aura pas forcément un état dépressif. S'il y a état dépressif à l'âge adulte, c'est qu'il y a un mois abandonné qui est un mois de perte. Il faut le prendre comme ça, dans l'autre sens.
Il y aurait une perte du mois dans le cas d'un enfant abandonné par sa mère et élevé par sa grand-mère ou quelqu'un d'autre.
À partir du moment où vous avez une mère de substitution, vous avez un inconscient qui fait la différence. Après qu'ils mettent en place une mère de substitution, c'est pareil. Mais l'inconscient sait que ce n'est, enfin, inconsciemment, le psychisme sait que ce n'est pas la vraie mère.
Donc il peut y avoir un problème après.
Et c'est ce que je disais, il peut y avoir un problème, mais il faut toujours tenir compte de l'évolution propre à l'individu. Qui fait qu'à situation égale, je sais pas, je vais vous prendre l'exemple de personnes qui sont des personnes qui ont été orphelines et qui vont quand même construire une famille. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a eu un abandon à la naissance qu'il va pas y avoir création d'un foyer avec des enfants. Par contre, vous avez d'autres personnes qui ont vécu cet abandon, justement, donc par un orphelinat et qui ne vont pas réussir à créer une famille sur le plan affectif. Donc, il y a toujours la touche de l'individu qui intervient. Donc il n'y a pas un schéma unique. Hein.
Ça peut jouer, mais ce n'est pas défini.
C'est tout à fait, voilà.
Et je voulais savoir, concernant ce sujet, c'est quoi la différence alors? C'est quoi qui joue? Vous parlez de l'évolution propre à l'individu, c'est-à-dire après c'est l'entourage, c'est l'environnement, c'est...
Il y a l'entourage, il y a son caractère, il y a ses origines, il y a surtout lui au départ. Il y a les personnes qu'il va rencontrer sur son chemin, ce qui va se passer, c'est multifactoriel. Donc, il peut y avoir une fragilité, je dirais, avec des éléments difficiles, mais tout dépend après ce que l'enfant en fait.
Merci. Plus de questions, non ? Apparemment, plus de questions.
Bien.
Merci, Laurence.
Je vous remercie.